RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Dans un instant, nous serons au Mans à moins d'une heure du Grand Prix de France Moto, édition spéciale avec Jean Lecroix et des invités sur place qui reviendront notamment sur la nouvelle pole position de Marc Marquez. Départ de la course à 14h et puis à 13h40, des nouvelles de la F1 dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue. Tout de suite, direction donc Le Mans, le circuit Bugatti, où l'on rejoint Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour Louis Amar, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
On t'entend parfaitement, merci d'être avec nous. On va revenir longuement sur les qualifications de ce Grand Prix de France Moto qui ont donc vu hier, Jean-Luc, Marc Marquez s'emparer de la pole position dans des conditions météo pourtant extrêmement fluctuantes et piégeuses.
Oui, des conditions extrêmement délicates qui règnent encore aujourd'hui d'ailleurs sur le tracé du Mans. Marc Marquez a signé la 55e pole position de sa carrière de pilote en MotoGP, la 83e au départ. C'est un exploit évidemment exceptionnel de la part du pilote espagnol qui a très bien joué le coup puisqu'il a signé cette performance dans les toutes premières minutes de la séance qualificative. La pluie s'est mise à tomber de manière légère à certains endroits du tracé. Il a été difficile d'améliorer et c'est dans ces conditions que l'italien Danilo Petrucci avec la Ducati et puis Jack Miller, encore avec une Ducati, sont venus compléter la première ligne de la grille de départ.
Absolument, Jean-Luc. Une première ligne donc composée de Marquez, de Petrucci et de Miller. On va retrouver tes invités qui sont avec toi au Mans dans quelques instants. On peut revenir quand même, Jean-Luc, sur la performance des Français. La 10e place de Fabio Quartararo, qui lui aussi s'est fait un petit peu piéger par cette météo qu'on évoquait il y a un instant. Et puis pour Johan Zarco, c'est toujours un début de saison extrêmement compliqué. 14e temps des qualifications pour celui qui, faut-il le rappeler, avait signé la pole au Mans l'an dernier.
Absolument, Johan Zarco était en pole position avec une Yamaha de l'équipe privée Tech 3, l'équipe d'Hervé Poncharal, qui est également passée chez KTM, qui est l'équipe client de KTM. Et c'est vrai que pour commencer par Johan, eh bien, il a pu signer que le 14e temps. Il était un peu furieux d'ailleurs pendant la séance qualif, parce qu'il aurait aimé disposer de sa deuxième machine et tenter une autre tentative pour mieux se qualifier. Bon, il va faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'on peut considérer que cette 14e position sur la grille est une amélioration par rapport à son début de saison. Pour en venir à l'une des stars, c'est Fabio Quartararo, bien sûr, qui avait signé la pole position lors du dernier Grand Prix à Jerez de la Frontera, devenant ainsi le plus jeune pilote du MotoGP à signer une pole, 20 ans et 14 jours. Il a battu, il a effacé Marc Marquez des tablettes à ce moment-là. Et c'est vrai que Fabio aussi s'est fait un tout petit peu piégé par les conditions météorologiques qui étaient délicates. Il aurait pu faire mieux, il en convenait lui-même. Mais bon, il partira de la 4e ligne. Et nul doute qu'en course, d'ailleurs, on ne sait pas quelle météo va régner sur le circuit du Mans. Pour le moment, c'est sec, mais on parle d'un début de pluie intermittente à partir de 14h, tu vois.
À 14h voilà. Pile, dis donc, le monde est bien fait. Ouais. Jean-Luc, on te retrouve dans un instant en direct du circuit du Mans. On va prendre évidemment la température, hein, sans jeu de mots, à moins d'une heure du départ de ce Grand Prix. Et tu nous raconteras évidemment l'effervescence qui doit régner sur la grille. Un direct en cours, déjà, en ce début d'après-midi, c'est du rugby, la suite de la 25e journée de Top 14. Match important dans la lutte pour les phases finales qui opposent Montpellier au Stade Français. Salut Julien Landry.
Salut Louis, salut à tous. Ouais, tu l'as dit, c'est un match très très important. Malheur au vaincu, tout simplement, déjà, cet après-midi. 29 minutes de jeu, 14 partout entre les deux formations. Grosse affiche, gros match. Ça tape très fort entre les deux équipes. Les Parisiens qui viennent d'ailleurs de prendre un carton jaune. Les Montpellierains vont donc en profiter pour avoir cette pénale touche à 5 mètres de la ligne de touche d'essai et d'essayer d'aller marquer un essai qui leur permettrait de passer devant. Mais tu l'as dit, voilà, l'équipe qui perdra cet après-midi dira définitivement adieu aux phases finales et l'équipe qui s'imposera aura toujours un espoir. Alors, elle saura toujours pas mettre de son destin. Il faudra s'imposer la semaine prochaine et espérer une contre-performance du Racing, du Castres ou de La Rochelle. Mais voilà, le but déjà, c'est rester en vie cet après-midi dans ce qui ressemble vraiment à un 16e de finale, alors que la touche montpelliéraine vient d'être perdue par Yacouba Camara, la demi-heure de jeu au GGL Stadium. 14 partout entre les deux formations.
Merci Julien, je vous rappelle qu'on suivra tout à l'heure à 16h50 le match entre l'UBB et le Stade Toulousain. Ça sera en direct dans l'Intégral Sport. Retour au Mans, Jean-Luc Roy, tu es en direct donc du circuit Bugatti à 50 minutes du départ du Grand Prix Moto de France et tu es avec l'organisateur de l'événement, c'est notre premier invité.
Absolument, je suis avec Claude Michy, l'organisateur de ce magnifique Grand Prix de France. Alors Claude, d'abord bonjour, merci de venir dans le studio d'RMC. Première question, malgré la météo un petit peu incertaine, on constate que les motards sont là, et bien là, je crois que l'affluence est globalement similaire à celle de l'an dernier.
Oui, on est sur les mêmes chiffres, on est à plus de 100 000, donc c'est pas mal. Et on a eu un peu de chance avec la météo, Parce qu'il y a eu quelques gouttes. La séance MotoGP hier a été
mouvementée,
particulière. Et donc, on espère que ça va tenir pour la course.
Alors, une question qui a été évoquée tout à l'heure, les grandes gueules du sport, c'était l'engouement, malgré tout, des Français, je veux dire, dans un pays autophobe, motophobe, enfin, tout ce qui a un moteur est banni maintenant, et on constate quand même qu'il y a un vrai public en France pour des événements de sport mécanique de qualité.
Ben, je crois qu'à partir du moment où travailler pour satisfaire le public, il revient.
Ben, oui. C'est tout
assez,
bête. Hein.
C'est assez simple comme sujet. Il faut faire le maximum. Un organisateur est obligé d'aller à la performance et donc et de donner du contenu. Bon, en plus, il y a les acteurs. Nous, on est qu'une petite pièce. C'est les acteurs qui font le spectacle.
Alors, tu me fournis la transition idéale, parce qu'à propos d'acteurs, on va évidemment parler de Fabio Quartararo.
C'est un métier.
J'ai bien compris. Fabio Quartararo, qui est la nouvelle étoile, on peut déjà le dire comme ça, à 20 ans à peine. Tu as suivi sa carrière, tu l'as même soutenu. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il signe une pole aussitôt dans la saison? On rappelle, cette pole, c'est le plus jeune pilote à l'avoir signé en MotoGP.
C'est toujours facile de dire après qu'on s'y attendait. Je pense qu'il a surpris tout le monde. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui a gagné dans sa très jeune carrière en Espagne. Il est arrivé en moto 3. Il était leader à la première course. Après, il est tombé. Et puis, je pense que la lumière qui est arrivée sur lui, il a un peu déformé. À 16 ans, c'est normal. Mais il a eu la ténacité. Il a travaillé. Il a gagné l'an dernier après 2 années difficiles. Et il y a eu l'opportunité
De monter en MotoGP.
Et Carmelo Spelletta, le CEO de Dorna, m'a appelé et m'a dit, est-ce que tu penses? J'ai dit, mais le train va passer, il faut monter dedans.
Bien sûr.
Et ce qu'il fait, c'est magnifique.
C'est magnifique. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Johann Zarco, qui avait signé la pole il y a un an ici exactement dans le Team Tech 3 avec une Yamaha. On savait que la route serait longue chez KTM, mais pensais-tu, et lui je crois aussi a des difficultés à ce niveau-là, que ce serait aussi difficile en début de saison?
Vous êtes dans un milieu de top performance. Donc vous avez 15 pilotes dans la seconde. Donc si vous avez une machine qui est un tout petit peu moins bien et que vous êtes un petit peu moins bien, ben, c'est compliqué. Ce que je trouve qui est fantastique, c'est qu'hier, que ce soit sur la fan zone ou quand Johan est venu pour le show mécanique, l'accueil qu'il a du public. Le public sent qu'il est dans la difficulté, qu'il va revenir. Et ce qui est génial, c'est la façon dont il se comporte.
Oui, et le public le soutient, effectivement, de toute façon.
Effectivement.
Alors, ça, c'est important. On a Dominique Sarron qui est là, qui interviendra tout à l'heure. Oui. Ah, on a un petit souci.
Non, c'est bon, ça va.
Ça va, c'est bon. Claude, l'autre question, on fête là les 50 ans du Grand Prix de France sur les circuits du monde. D'ailleurs, Giacomo Agostini est présent. L'homme qui détient le plus grand nombre de titres de champion du monde, on le rappelle, 15. On rappelle que Valentino Rossi est là pour essayer de décrocher le 10e de sa carrière. Bah, parle-nous des souvenirs qu'on peut avoir, effectivement. Et de ce Grand Prix de France, au Mans, ça fait 20 ans sans discontinuer, hein, je crois qu'on est au Mans.
Oui, et le premier a eu lieu en 69,
oui.
Giacomo avait gagné, bon, il était là hier et avant-hier. On a eu hier Thorsen qui avait gagné en 50 cm3, qui était là avec sa machine. Et toutes les machines et le sidecar qui avaient roulé et gagné en 69
étaient présents.
Donc et on avait une très belle exposition ensuite qui intéressait beaucoup de monde. Le public, c'est fantastique. La façon dont le public s'intéresse à les histoires.
Et oui, parce que effectivement, il y a des bases en sport mécanique et il y a une grande tradition de sport mécanique en France et particulièrement au Mans. Le contrat est signé jusqu'à quand avec toi et avec Dorna qui est le promoteur donc des Grands Prix?
On est en contrat jusqu'en 2026 avec la CEO et avec Dorna.
Bon, je vais oser poser la question parce que là, le public est présent. Il y a des tribunes qui ont été installées. Tu as dû en rajouter. Il y a des grands écrans. Est-ce qu'on peut encore faire mieux pour accueillir le public au Mans?
On peut toujours faire mieux. Il faut toujours aller vers l'excellence. Mais c'est évident, c'est une notion de moyens. Mais il faut jamais reculer. Nous, on a toujours essayé de progresser, d'amener du contenu et de satisfaire le public.
Bon, c'est une évidence, je le sais, mais la présence de pilotes français de haut niveau, performants, on attend évidemment peut-être une victoire ou de Johann Zarco, pourquoi pas la KTM va progresser, ou de Fabio Quartararo. Est-ce que ce serait l'impulsion supplémentaire? Mais tu vas les mettre où, les spectateurs, sur le circuit du Mans?
Non, je pense que ça serait surtout une médiatisation pour le sport moto dans son ensemble. Et il faut élargir la discussion. Et à partir de ce moment-là, il est quand même nécessaire d'avoir des vainqueurs. Et ce que moi, ce que j'ai dit, ça plaît pas à tout le monde, mais Zarco était champion 2 ans.
Champion du monde en moto 2.
Oui, 2 fois. On en a peu pas parlé. Et malheureusement, quand un tennisman est éliminé en 16e de finale ou au premier de tour, on a l'information. Cherchez l'erreur.
Mais on n'a rien contre le tennis, hein. C'est évident. Merci beaucoup, Michi. Je sais que je vais te lâcher pour aller bientôt sur la grille de départ. Et puis, c'est Dominique Sarron qui va succéder à l'organisateur de ce Grand Prix de France.
Jean-Luc ?
Oui.
Laisse-moi juste le temps de rappeler qu'il est 13h15 que vous écoutez RMC, que Motor, c'est en direct autour de toi du circuit Bugatti du Mans, d'où sera donné dans 3 quarts d'heure maintenant le départ du Grand Prix de France Moto. Vous le suivrez évidemment en direct sur RMC dans l'intégral sport. Vous ne raterez rien. C'est Marc Marquez qui fait la pole position et on accueille Jean-Luc, ton deuxième invité qui est à tes côtés au Mans.
Oui, merci beaucoup Louis. Effectivement, c'est Dominique Sarron, 4 victoires en Grand Prix.
Bonjour.
Bonjour d'abord Dominique. 85 départs en Grand Prix. Tu vois, j'ai consulté mes fiches.
Vous les connaissez mieux que moi, parce que j'ai jamais été un spécialiste des statistiques.
Moi j'ai trouvé tout ça, tu vois. Et troisième du championnat du monde de 150 cm3 avec Honda. Alors la première question, elle est un petit peu évidente et c'est vrai que tu m'avais fait le plaisir de venir également dans le studio l'an dernier. Quel effet ça fait de se retrouver ici au Mans, théâtre d'exploits de nombreux pilotes, dont toi, avec plus de 100 000 spectateurs?
Tout y est. Les pilotes français qui sont bien en MotoGP, en tout cas, c'est toujours un petit peu dommage de voir qu'il y a plus de français ni en Moto 3 ni en Moto 2, qui sont les tremplins pour le MotoGP.
Bien sûr.
À l'exemple justement d'un Fabio qui lui a vraiment éclaté cette année, alors que l'an passé en Moto 2, malgré sa victoire, il avait quand même un petit peu de mal. Donc ça veut dire que ces motos là, ces catégories là, sont vraiment un tremplin pour le MotoGP, sont une bonne école. Et puis du monde, du public, Claude que vous avez,
c'est la fête de la moto,
Claude que tu viens de recevoir à l'instant, fait un maximum pour le public, pour qu'il y ait un show mécanique, il y a une rencontre avec les pilotes, la visite des stands. Donc je crois que c'est un Grand Prix exceptionnel. Il manque juste une petite chose, c'est un petit rayon de soleil.
Un petit rayon de soleil, ce serait pas mal. Alors je vais tout de suite t'interroger. On est dans Motors, hein. C'est ceux qui nous écoutent sont initiés au sport mécanique, connaissent ça très bien. Tu as piloté dans plusieurs catégories. On l'a dit, 250 cm3 en championnat du monde. C'est là que tu as le plus brillé. Tu as essayé les 500, tu as piloté en endurance, d'ailleurs tu détiens le record des victoires au Bloc d'Or.
Plus.
Ah, tu le détiens plus. Ah.
Et non.
Alors plus. Tu vois, je vais mettre ma fiche à jour pour le coup, mais enfin 7 fois vainqueur au Bloc d'Or, c'est quand même pas mal.
J'ai gagné également les 24 heures du Mans.
Tu as gagné aussi les 24 avec ton frère, avec Christian. Ma question était, quand on change de cylindrée de cette manière-là, est-ce que par exemple, pour la faculté d'adaptation pour Fabio Quartararo, qui montait du Moto 2 au MotoGP, bon, on voit que ça lui réussit parfaitement, et le changement d'écurie à la fois pour Johann Zarco qui lui passait de Yamaha à KTM avec difficulté. Tu as connu ça, comment on résout ce type de problème? C'est psychologique, c'est technique, c'est les deux?
Claude l'a bien résumé tout à l'heure. Il y a une seconde qui sépare le top du top, c'est-à-dire de la première ligne, du fond de grille pratiquement, parce qu'ils sont plus de 15 dans la même seconde. Donc les pneus sont identiques. Par contre les motos pas du tout. En ce qui concerne la KTM, elle a un châssis qui est un petit peu différent parce que c'est un châssis tubulaire, parce que c'est l'historique de la marque et ils tiennent absolument à avoir un châssis tubulaire.
Comme ça, ouais.
Donc après, je ne suis pas ingénieur, donc je peux pas dire si c'est mieux, si c'est moins bien. Quoi qu'il en soit, c'est une moto qui convient moins bien à Johan.
Oui, vas-y, continue. On a des petits soucis techniques, autant vous le dire, mais continue.
Autant on peut voir justement que la Yamaha, elle s'adapte vraiment bien à des jeunes qui arrivent dans la discipline, dans la catégorie MotoGP, parce que tous les pilotes qui sont passés sur la Yam ont été relativement vite dès le début.
Oui. Donc c'est une machine plus facile d'utilisation, on va oser dire ça.
Ça, c'était justement la philosophie de Valentino Rossi lorsqu'il est arrivé chez Yamaha. Il voulait que ce soit une moto qui s'adapte à tous les styles de pilotage et avec lesquels le pilote et en confiance avec le train avant essentiellement, parce que bon, en ce qui concerne l'arrière, la réaccélération, il y a l'électronique, il y a tout un tas de choses très sophistiquées maintenant qui permettent à un pilote de plus avoir trop de problèmes à l'accélération. Par contre, le train avant où on rentre à plus de 300 dans la courbe d'un lob, il est bien évident que si vous avez une légère appréhension, et ben au lieu de couper, on va dire par exemple au panneau 200 mètres, on coupe au panneau 210 mètres, et là, ben, tout ça se cumule, et ça fait qu'à la fin du tour, ben, on prend 5 dixièmes, et 5 dixièmes, et ben, c'est 10 places de perdu. Donc c'est pour ça que c'est important qu'une marque travaille également en étroite collaboration avec un pilote, de façon à ce que le pilote, non seulement la moto soit performante, parce que c'est l'objectif, mais elle soit performante pour que le pilote soit capable d'utiliser l'intégralité, les 100% d'efficacité de la moto. Et là, il y a toujours une petite part d'incertitude. Et après, ben, pour un pilote, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le train avant, vous êtes un petit peu moins en confiance, vous vous exprimez un petit peu moins, et on le voit parfaitement cette année. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un peu de bord de piste pendant les séances d'essai.
Voilà,
quand on voit un Espargaro, quand on voit un Espargaro qui est très violent avec la moto et un Johan qui passe derrière, on se dit là il y a réellement une différence. On voit que les pilotes n'ont pas la même approche, la même psychologie,
le même
style de pilotage. Alors bon, Espargaro est tombé quand même trois fois.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc ça veut dire qu'il pousse vraiment au maximum. Johan n'est pas dans ce stade-là.
Oui.
Et pour Johan, c'est également une découverte, parce que KTM l'a embauché également pour développer la moto. Donc, quand on a du matériel, on essaie de l'emmener à 100% de son potentiel. Là, Johan, sa mission, c'est exploiter la moto, mais aussi la faire évoluer et la développer. Alors, certes, la KTM a progressé cette année, mais elle a progressé, mais les autres sont pas endormis non plus. Et ce qui fait que cet écart, il est toujours présent.
D'accord. Je te remercie infiniment, Dominique, d'avoir été présent. Je vais te lâcher parce que je sais que tu as attendu sur la grille de départ de ce Grand Prix. On est en direct, hein, au Mans, ici, le président de la Fédération Française de Moto, Jacques Boll, qui est également un ancien pilote de Grand Prix. Voilà, Jacques, j'espère que tu m'entends convenablement. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de RMC dans Motors.
Bonjour à tous.
Je rappelais, et on n'y manque évidemment pas, que tu es un ancien pilote de Grand Prix, vainqueur du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. Alors, je sais que c'est la belle occasion pour le rappeler quand même chaque année. J'imagine que c'est des magnifiques souvenirs.
Ah mais bien sûr, c'est de très beaux souvenirs, mais c'était il y a fort longtemps, tu sais, Jean-Luc.
Ça fait rien, on était jeunes, mais ça fait rien, on s'en souvient bien. Jacques, je le disais il y a un instant avec Dominique, c'est vraiment la fête, et avec Claude Michi qui t'a précédé, c'est la fête de la moto ici avec plus de 100 000 spectateurs malgré une météo moyenne. C'est rassurant quelque part, c'est enthousiasmant je dirais même, dans un pays, je le rappelais tout à l'heure, qui est malheureusement foncièrement autophobe et motophobe.
Oui. En effet, mais ça prouve que ceux qui le sont ont tort, puisque on organise une épreuve telle que l'Enduropal du Touquet, il y a 250 000 personnes.
Ouais.
On organise ici le Grand Prix de France, alors que la météo est, on va dire, quelconque, il y a plus de 100 000 personnes. Les 24 heures du Mans automobile, c'est aussi une réussite incontestable année après année. Donc en fait, le sport moto.
Il y a 250 000 personnes.
Le sport moto, le sport auto, ça plaît aux Français, contrairement à ce qu'on dit.
Et puis c'est une tradition, hein, ça fait partie de l'histoire de la France. Alors Jacques, on évoquait également le cas des pilotes français avec, je pense qu'on peut se réjouir évidemment de la montée en puissance de Fabio Quartararo et de cette fameuse pole à Jerez, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui fait de lui le plus jeune pilote à avoir décroché une pole position à peine 20 ans. Extraordinaire.
Alors même si Fabio, faut se souvenir, lorsqu'il est arrivé en Grand Prix, en Moto 3, il y a quelques années, il avait performé tout de suite. Hein.
Oui.
Faut se souvenir qu'il était monté sur le podium, je crois, à son deuxième Grand Prix. Donc on savait que le potentiel était là. Alors
ouais.
Depuis, c'était peut-être un petit peu grillé le bout des ailes. Mais aujourd'hui, bah, il montre que le potentiel est toujours là et qu'il a vraiment un très très haut niveau. Moi, je pense que ça sera avec Johan, tous les deux, je pense qu'ils vont performer dès cette année et encore plus les années prochaines.
Alors, tu l'as abordé, on va parler de Johan Zarco, bien sûr, qui connaît un début de saison difficile, mais qui a changé d'écurie, changé de machine. Son talent est toujours là. Il est double champion du monde en Moto 2.
Oui, oui, mais qu'on a terminé deux fois champion du monde, on sait que c'est un excellent pilote. Et de toute façon, c'est une mauvaise passe. Ça va durer un an, peut-être deux. Mais en tout cas, le talent d'Yann est toujours là, ça c'est certain. Et on le verra encore sur les podiums.
Alors Jacques, on parlait de la promotion des pilotes français, on l'évoquait. Ils sont deux dans la catégorie supérieure en MotoGP, ce qui est absolument formidable. Malheureusement, nous n'en avons pas en catégorie Moto 2 et Moto 3. Je sais que la fédération a réagi, avec Claude Michi d'ailleurs, puisque vous avez monté une équipe de Grand Prix pour pour justement permettre à des jeunes Français d'accéder au Grand Prix.
Oui, bah, force est de constater qu'il y a un trou. Il y a un trou. On a toujours eu des pilotes français dans toutes les catégories. Cette année, c'est plus vrai. Même si on a donc deux garçons qui vont briller en MotoGP, on a besoin aussi de relève parce que Johan et Fabio, même s'ils sont jeunes, eh bien, ils seront pas là ad vitam aeternam. Donc, on a besoin de jeunes. Donc, il faut qu'on travaille sur les jeunes et c'est ce qu'on a décidé de faire. En effet, on essaie de relancer une filière, une structure. Ça a déjà existé dans le passé.
Bien sûr.
On a donc décidé avec Claude de relancer ça et on a donc mis en place une structure sous la houlette d'Alain Brenet qui s'en occupe.
Et qui a beaucoup travaillé avec la fédération également dans le passé. C'est évidemment important d'avoir des pilotes français performants qui gagnent des grands prix. C'est, enfin, on va pas dire ce qui manque, mais ce serait encore une accélération formidable pour le sport motocycliste, non seulement en France, mais ailleurs.
Oui, bien sûr. Ça, on le constate dès que, notamment la MotoGP, hein, dès qu'on a des Français qui performent, tout de suite les grands médias s'y intéressent. Hein. Avoir accès aux grands médias, on le sait, c'est difficile. On a du mal en motocross, on a du mal en enduro. En vitesse, on a même du mal à travers l'endurance ou le moto 2 ou le moto 3. Par contre, si on a des garçons qui réussissent en MotoGP, ben, par contre, là, tout de suite, on voit les grands médias s'y intéresser et c'est évidemment très positif pour la fédération.
Et absolument. Jacques, je vais profiter de ta présence, évidemment, ici pour étendre un petit peu le débat à la moto en général et la place de la moto dans la société, en France, dans la circulation. On voit qu'elle est combattue particulièrement à Paris, ce qui me met personnellement dans des rognes sauvages, alors que les solutions peut-être à la circulation elles sont là. Est-ce qu'il y a quand même des échanges entre les pouvoirs publics et la Fédération française de moto ou bien le discours est rompu?
Non, le discours est pas rompu parce que ça sert à rien. La politique de la chaise vide, ça sert à rien. Mais je dois dire qu'on est guère entendu. On est guère entendu. Alors il y a les instances nationales, hein, qui sont, il y a la DSCR à Paris. Puis il y a aussi les villes, hein, notamment. Vous savez que les villes peuvent un peu faire ce qu'elles le souhaitent. Hein, ouais. Et on le voit avec Madame Hidalgo, qui a vraiment en effet une politique qui quelquefois est à la limite de la déraison.
L'hystérie, moi
voilà,
je dis.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on maintenant commence à parler des périphériques à 50 km à l'heure, enfin bon, on est dans le ridicule le plus éculé.
Allez, on va pas terminer sur une note, puis après. Je vais te relâcher parce que je sais que tu es attendu sur la grille de départ. Le Grand Prix de France de moto au Mans, c'est la plus belle fête du sport motocycliste.
Alors là-dessus, certes, d'autres diront que c'est le Melon du Roupal du Touquet, par exemple.
Okay, en nombre de spectateurs, oui.
Alors, en nombre de spectateurs, c'est le Melon du Roupal du Touquet, oui. Par contre, ici, on a quand même plus des manifestations sportives, ou même en dehors du sport, hein, qui accueillent de plus de 100 000 spectateurs.
Sur un même jour, on le rappelle, sur un même jour, au même endroit.
Y en a-t-il beaucoup? Y en a-t-il beaucoup?
Non.
Et même les plus grands matchs de foot ne dépassent pas cette jauge. Donc, c'est clair que, là, encore une fois, le sport moto et le sport mécanique en général, c'est quelque chose qui plaît aux Français, contrairement à ce que nos détracteurs affirment.
Merci beaucoup Jacques Boll, président de la Fédération française de motocyclisme. Merci Jacques, je te rends à la grille de départ et on va espérer que les pilotes français brillent, hein, c'est possible avec ces conditions incertaines.
Bon, on l'espère bien sûr. À
merci,
bientôt,
merci beaucoup Jacques.
Merci
Louis.
Merci Jean-Luc, merci à Jacques Boll d'avoir été ton invité. On revient évidemment au Mans dans quelques minutes, Jean-Luc, quelques minutes à peine, avec d'autres invités à 33 minutes maintenant du départ du Grand Prix de France moto.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bientôt 13h30 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, Motors en direct jusqu'à 14h. 14h, c'est l'heure du départ du Grand Prix de France moto sur le circuit Bugatti du Mans, où tu te trouves, Jean-Luc, en compagnie de nouveaux invités.
Oui, tout à fait, Louis, j'ai le plaisir d'accueillir Rufino Del Parco, qui est le directeur général de Ducati West Europe. Bonjour monsieur Del Parco.
Bonjour à tout le monde.
Alors, bonjour. Je vais parler doucement. Vous avez accepté gentiment de parler en français, ce qui est très agréable pour nous.
J'essaie.
Et pour les auditeurs de RMC, ma première question, elle est un petit peu bateau. Que représente pour une marque comme la vôtre, qui est une marque européenne, faut-il le rappeler, avec KTM, qui est une marque aussi européenne, mais qui lutte contre les marques japonaises un peu hégémoniques, l'engagement en compétition et particulièrement en moto Grand Prix?
Alors, Ducati, le corps de Ducati, c'est la vitesse, c'est la compétition. Donc, Ducati, dans tout le monde, il représente pour tous les clients la compétition. Et donc, les GP, c'est
le summum, le pinacle
de la
compétition.
Oui, exactement. C'est incontournable pour nous, la compétition. Nous sommes nés avec la compétition, donc... Les résultats, ils sont devant les yeux de tout le monde.
Alors, on peut parler de la grille de départ. Je crois que vous êtes content parce que sur la première ligne, aux côtés de Marc Marquez qui a signé la pole, vous avez Danilo Petrucci, un des pilotes d'usine, et Jack Miller qui est un pilote privé. Et l'autre n'est pas loin, Andrea Dovizioso. Par parenthèse, c'était important d'avoir deux pilotes italiens pour Ducati.
Oui, bien sûr, mais c'est important d'avoir trois Ducati dans les premières quatre positions. En plus, sur cette piste, pour nous, c'est favorable pour la moto et aussi pour les pilotes. Donc, normalement, notre pilote, il va très bien à Le Mans et très bien avec ses conditions météorologiques. Donc, il y a beaucoup d'espérance, oui, de faire bien aujourd'hui, non?
Donc. On parle peut-être de quelques ondées qui viendraient un peu de pluie sur le circuit du Mans. Vous savez si vos pilotes finalement la souhaitent ou préféraient rouler sur le sec, comme c'est le cas encore actuellement?
Ah, j'ai parlé d'abord avec André, ça dépend ouais. des conditions. Il m'a donné pas en prévision, mais ça dépend beaucoup du moment qu'il a,
bien sûr.
La compétition il démarre, donc, on verra.
Et puis, le plus délicat, c'est les conditions changeantes. Hein, c'est-à-dire, comme on l'avait hier en qualification.
Exact, bravo. C'est exactement la condition intermédiaire que c'est la plus difficile à gérer.
Et pour les pilotes, c'est toujours extrêmement délicat. En tout cas, hier, ils l'ont bien géré. Il y avait un côté stratégique également, hein, de sortir hier tout de suite.
Mais j'ai vu les premiers tours, ils sont faits bien. J'ai vu tous les pilotes qui, après les deuxièmes, troisièmes, ils ont fait un peu des difficultés, tout le monde. Et donc, ça dépendra beaucoup de la pluie. Mais c'est les mains. Donc, la chose importante, c'est d'avoir tous ces publics-là que je n'ai jamais vu dans ma vie parce que c'est énorme. Je suis arrivé vendredi, il y a tout le monde ici.
Et j'allais vous en parler. Vous êtes italien, c'est le pays, la patrie des sports mécaniques, la Ferrari. D'ailleurs, tiens, une petite question juste rapide. Est-ce que pour vous, Ducati, c'est l'équivalent de Ferrari en Formule 1? Parce que Ducati, c'est une marque italienne, il y a quand même une tradition. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou pas?
Tout le monde, il dit ça. Oui et non pour moi, mais ok, c'est rouge, c'est italienne, mais c'est Ducati, c'est Ducati.
Bon, donc, oui, Ducati, c'est Ducati. Oui.
Qui fait partie beaucoup du groupe. La moto et pas beaucoup les automobiles, donc.
Bon, d'accord. Et ça fait toujours partie du groupe Audi, par parenthèse, hein, Ducati.
Oui, exactement. Oui. Groupe Volkswagen.
Volkswagen. Plus généralement. Groupe Audi. Oui. Alors, mon autre question, puisque vous êtes, je le rappelle, directeur général de Ducati Ouest-Europe, qui comprend donc plusieurs pays.
Oui.
Est-ce que entre les machines d'usine, je vais pas vous dire ça, je le sais, et les machines de route, il y a un lien, mais est-ce qu'il y a un esprit quand même? Est-ce que la compétition apporte toujours quelque chose?
Absolument,
aux machines?
Oui. Vous avez raison. Nous prenons tout ce qui vient de la compétition pour le mettre dans les motos de série. Et il y a beaucoup, la Panigale V4R qui s'est sortie cette année. Et c'est une expression incontournable de la piste. Donc, tu peux avoir les mêmes choses que tu as sur la piste, sur une moto de série. C'est un moto de série très belle, très puissant, mais c'est facile pour rouler, mais avoir les mêmes sensations qu'il y a un pilote.
Oui.
Apparemment, en moto comme la V4R, il y a quelqu'un, il peut faire tranquillement
Superbike. On arrive à retrouver.
Oui, il y a la même chose.
Oui, avec les machines de Superbike, il y a une similitude par rapport aux machines de série.
Ouais,
c'est très proche.
Exactement.
Alors, tu l'as dit il y a un instant, on parle de passion, on est entre motards, effectivement. Est-ce que la moto, c'est pas le plus beau symbole de la passion en général et de la passion des sports mécaniques?
Absolument. La moto, j'ai travaillé beaucoup d'années aussi dans l'automobile, mais la moto et les clients de la moto, il y a la passion encore.
Il y a la passion moto, encore. Alors, est-ce que tu penses que Ducati sera engagé pour longtemps en compétition? Ça fait partie, c'est dans l'essence même, dans les gènes, on va même dire, de la marque?
Oui. C'est dans le DNA, et donc en France,
c'est les gènes.
Dans les gènes, oui, pour nous, c'est en liaison incontournable, c'est en liaison...
Et pendant que nous parlons, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais on voit Danilo Petrucci là, qui justement salue le public dans le fond. C'est sympa d'ailleurs d'avoir fait monter ce pilote dans l'équipe d'usine. C'est un pilote qui était privé et qui a intégré le type d'usine. C'est vraiment le passionné type. Je crois qu'il est fils d'un mécanicien qui était lui-même mécanicien dans une équipe privée. Hein, c'est bien ça.
Ah oui.
Donc
c'est important d'avoir un Italien, c'est clair, dans une équipe italienne, mais. C'est bon.
Bon, en tout cas, la bataille est féroce avec Marc Marquez, qui est vraiment extrêmement dominateur. Hein. Quels sont les atouts de le pilote de pointe? A priori, c'est Andrea Dovizioso.
Oui, oui,
même
bien sûr.
Si Danilo
bien
va jouer sa carte.
Hein, Danilo va faire un jeu d'équipe, comme on peut dire. Donc, il va aider sûrement Andrea pour gagner les championnats du monde cette année. C'est clair.
Merci beaucoup. Rufino Del Parco, le DG de Ducati, je vais te remercier. Je te repasse la main, Louis. Et puis, j'ai un autre invité qui nous attend, qui est Patrick Plisson, qui a été pilote en français. Merci
bonjour,
infiniment
à tout le monde.
Merci beaucoup à Rufino. Et on revient dans un instant, Jean-Luc, avec ton nouvel invité. En attendant, Julien Landry, c'est reparti au rugby entre Montpellier et le Stade français. 25e journée de Top 14. Bon, c'est reparti, mais Julien aussi est reparti. 14 partout, du coup, entre Montpellier et le Stade Français. On retrouvera évidemment Julien Landry dans quelques instants. Retour donc au Mans, Jean-Luc, avec ton nouvel invité.
Et oui, avec Patrick Plisson, effectivement. Bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Luc et les auditeurs surtout.
Ben oui, merci de me rendre visite, c'est presque une tradition hein, chaque année.
Eh oui.
Alors, là aussi j'ai ma petite fille, j'espère qu'elle est totalement à jour. 25 départs en Grand Prix, 7 podiums. Je suis bon là jusque-là ?
Oui, parfait.
Je suis bon, parfait. Je suis parfait jusque-là. Donc, et t'as terminé 3e du championnat du monde. Hein.
Exactement, on va rajouter, il y a pile 40 ans.
Ben, il y a pile 40 ans, alors ça venait derrière. Mais bon, écoute,
oui, oui.
L'homme est encore vert et l'homme fait encore de la moto, donc, voilà. Donc ça va bien. Alors là aussi, quel est ton regard? Je vais poser, pas tout à fait les mêmes, mais un petit peu des questions dans l'esprit de celle de Dominique Sarron. Tout à l'heure, toi qui as fréquenté les Grands Prix à une autre époque, hein, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir 100 000 spectateurs? Tu as connu également les Grands Prix des années 70.
Oui, j'ai connu les Grands Prix sans spectateurs.
Ben,
je me rappelle,
oui, beaucoup moins,
en Espagne,
moins.
Entre autres. Incroyable, parce que je vous parle de l'Espagne, qui est le pays roi quand même des Grands Prix. Et à l'époque, on sortait du franquisme. Oh, je m'excuse, hein, on parle d'une autre époque.
Oui,
et les tribunes étaient vides. Hein. Bon, enfin voilà. Non, pour revenir, pour essayer d'intéresser les auditeurs, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de l'évolution, des pilotages, etc. Moi, ce qui me soucie, ce qui m'ennuie, je sais pas comment dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des excellents pilotes, hein, Zarco, Lorenzo, qui changent de moto et qui arrivent plus à s'exprimer.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il doit, en fait, on a l'impression que ça sert presque à rien d'être doué. Faut surtout être travailleur et changer de style et s'adapter. Et c'est bon, inquiétant. Le terme est pas bon non plus. Mais voilà, des excellents pilotes qui arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ont pas la bonne moto. Enfin, ils ont pas. C'est pas qu'ils ont pas la bonne moto, c'est qu'ils ont pas le bon style. Donc ils doivent tout réapprendre.
Alors j'allais te dire, est-ce qu'il y a pas une question de style de pilotage? Parce que tant Johan que Jorge Lorenzo, je pense que tu vas être d'accord avec ça, ont un style de pilotage très pur. C'est moins des pilotes qui rentrent dedans. Et est-ce que quand on change de machine, c'est pas ça le problème entre guillemets?
Bah oui, exactement. C'est des pilotages purs qu'on avait tendance quand ils étaient sur les en tête à admirer, à dire c'est ça la solution. Ils sont très doués, ils sont fins, on n'a pas l'impression qu'ils forcent. Et puis on les change de moto, et puis tous ces dons, toutes ces capacités semblent perdues. Et puis il faut qu'ils se remettent à piloter comme un autre. Et Dieu sait que c'est difficile avec les performances d'aujourd'hui. Voilà.
La moto, on l'évoquait avec il y a un instant Rufino del Parco. C'est vraiment la passion des sports mécaniques. C'est une passion la moto, c'est un mode de vie. C'est une vaste question.
Ah bah la réponse vous la connaissez. Bah oui, 40 ans après, je suis encore là.
Bah oui.
À venir regarder, aller dans les stands, avoir les mécanos. Enfin ouais, c'est bien sûr que c'est une passion.
C'est une passion.
Et puis c'est quand même vrai. Tout à l'heure, vous avez commencé à dire, l'Italie, c'est le pays de la moto. Quelque part, c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde dans les tribunes. Mais qu'en France, qui est quand même pas un pays très moto, on n'a aucune industrie, on n'a pas de marque de moto, et qu'on est 100 000 spectateurs avec un temps moyen, c'est quand même impressionnant. Et c'est vrai qu'on voudrait que, on le sait, nos médias, un petit peu, qu'on en parle plus de nos...
Oui, et
de
puis l'état d'esprit général, j'allais dire, même les pouvoirs publics se rendent compte que la moto et le deux roues, c'est une solution, évidemment, et à la pollution, et à la circulation. C'est tellement une évidence absolue, Patrick.
Et exactement. Et puis, je sais pas comment faut se battre, mais bon.
Bon, on va se battre. Merci infiniment d'être venu.
Merci
parce
à tous.
Que dans un instant, je vais avoir un autre invité qui va être Régis Laconi, Louis.
Absolument. Dans un instant, on se retrouve en direct du Mans avec Régis Laconi. Et puis Christophe Plenet sera là, évidemment, pour le traditionnel Radio Paddock. Et puis, bien sûr, dans 20 minutes, le grand départ de ce Grand Prix de France.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h43 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors. On est à 17 minutes du départ du Grand Prix de France Moto. Ça se passe au Mans sur le circuit Bugatti. Le Grand Prix sera à suivre évidemment en direct, en intégralité sur RMC. Nous, on retourne au Mans, Jean-Luc, où tu attends un nouvel invité.
Et oui, Louis, absolument. Et c'est un plaisir d'accueillir Régis Laconi. C'est le dernier vainqueur français d'un Grand Prix 500 cm3. C'était à Valencia, en Espagne, et c'était en 99. Bonjour, Régis.
Bonjour tout le monde.
Je te remercie infiniment d'être venu.
C'est un plaisir.
Écoute, partagé. 55 Grands Prix en 500 cm3, 28 en 250, une pole position. Alors, la question, là aussi, elle est évidente, hein, avec vraiment les 100 000 personnes qui nous font face. C'est vraiment un bonheur, quoi, de se retrouver au Mans pour ce Grand Prix de France.
C'est toujours un plaisir quand on aime la moto comme ce que j'aime moi la moto, ce que j'ai aimé surtout on va dire la course. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là et surtout d'être sur ce Grand Prix de France qui est très bien managé par Claude Michi aussi, qui fait un beau Grand Prix pour les spectateurs et ça c'est vraiment super.
Alors, tu es ambassadeur Ducati hein depuis que tu as cessé ta carrière, que tu as mis fin à ta carrière. Je rappelle aussi que tu as failli être champion du monde Superbike, c'est passé vraiment fin en 2004 hein, c'est bien ça.
C'est bien ça, ouais.
Et ça s'est joué à la toute dernière course en fait. Je crois que 5 pôles, 14 podiums, 7 victoires cette saison-là.
Voilà, c'était en tout cas j'ai fait un peu des erreurs avant, c'est pas la dernière course vraiment que ça s'est joué, j'ai fait un peu trop d'erreurs malheureusement et je voulais être champion du monde et gagner toutes les courses, mais je me suis rendu compte un peu tard que c'était pas possible.
C'est pas possible. Régis, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, on parlait de Ducati notamment, donc tu es proche de ces pilotes, quand tu vois Petrucci en première ligne, Dovizioso derrière, est-ce que ça a beaucoup changé finalement? Bon, la mécanique oui, naturellement, mais est-ce que la philosophie est la même? Tu as un peu discuté avec les pilotes?
Ouais, bien sûr. Bon, je les connais bien. Ça, c'est une chose. Je suis super bien aussi avec Paolo Ciabatti, qui est vraiment le team manager, ouais, qui était le team manager quand j'étais officiel Superbike chez Ducati. Donc, en tout cas, c'est toujours un plaisir de causer avec eux et de causer justement, on va dire, la partie passion qu'ils ont, parce que c'est quand même un travail, c'est un business, ça rapporte de l'argent. Il y a plein d'argent en jeu, faut pas rêver.
Bien sûr.
Mais chez Ducati, il y a vraiment le côté passion qui fonctionne, comme c'est le cas avec les pilotes encore aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir d'être là et de causer avec eux.
Alors, on évoquait la pole de Marc Marquez, hein, elle est incontournable évidemment, comment faire autrement? En plus, on a l'impression qu'il a un petit quelque chose en plus. Est-ce que c'est ton avis? Il a commis une erreur à Austin, il était devant, il est tombé, mais là quand même on en est à 55 pôles en MotoGP, c'est ahurissant.
C'est sûr, c'est vrai que c'est un phénomène, faut dire la vérité. Je veux dire, tout le monde est performant, c'est sûr, parce que pour être à ce niveau, faut pas rêver, je le sais bien, il faut être très performant, mais en tout cas, c'est beau de voir ce qu'il fait, et en tout cas, le seul truc, moi, qui me fait toujours un peu peur, c'est qu'il tombe quand même beaucoup, et qu'il a donc quand même, faut dire la vérité, de la chance avec lui, et j'espère que la chance ne tournera pas un jour. Je croise vraiment les doigts pour que ça change pas, parce que...
On sait qu'il a été opéré d'ailleurs de l'épaule, hein. Il avait des problèmes avec l'épaule gauche, là, apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Un mot des pilotes français. Fabio Quartararo, le plus jeune poleman, à peine 20 ans, ça te rappelle des souvenirs? Toi, t'avais débuté au Mans d'ailleurs, si je me rappelle bien.
Non, c'était à Manicourt, c'était le Grand Prix de France, mais c'était Manicourt. Mais bon, c'est parce que c'était à ce moment-là là-bas.
D'accord. 92 alors, je me trompe pas d'année?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Et donc, tu te remémores cette époque où là aussi t'étais très jeune et quand tu as débarqué en Grand Prix?
Bah oui, c'est toujours facile, on va dire, de se remémorer, mais bon, c'est toujours différent. Je veux dire, il y a plein de choses qui ont changé.
Merci beaucoup, Régis Laconi, d'être venu. Dernier vainqueur français en Grand Prix. Ça va peut-être changer aujourd'hui, mais je présume que tu le souhaites également, parce que ça voudrait dire que les nôtres sont performants aujourd'hui.
C'est clair. On espère, en tout cas, on croise les doigts.
On y croit. Merci beaucoup, Régis, d'être venu.
Merci. Au revoir.
Voilà,
merci.
Louis.
C'était parfait. Merci Régis Laconi d'avoir été avec nous. Jean-Luc, on ouvre une toute petite parenthèse dans ce dimanche de moto. Petite parenthèse pour Radio Paddock.
RMC Motors. World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys! Radio Paddock.
Avec Christophe Lenné. Salut Christophe.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
On commence par la F1. Il n'y a que de la F1 d'ailleurs, de toute façon, dans Radio Paddock aujourd'hui.
Exactement.
Un nouveau Grand Prix.
Et ce qui n'était qu'une lointaine rumeur, voilà plusieurs mois, Louis, s'est transformé en belle réussite pour les Pays-Bas. Le pays de la famille Verstappen retrouvera sa place dans le calendrier de la Formule 1 à partir de la saison 2020. Comme l'ont annoncé les patrons du circuit de Zandvoort mardi dernier, c'est un retour aux sources pour la F1 qui avait posé ses valises entre les dunes au bord de la mer du Nord à 30 reprises entre 1952 et 1985. Jean-Luc, aucune date officielle n'a été dévoilée, mais on parle d'une période pré-Monaco autour du début du mois de mai 2020. Tu confirmes?
Oui, je confirme. Effectivement, on va attendre le calendrier officiel. En tout cas, c'est un beau retour, hein, évidemment, dans le pays, et tu l'as précisé, de Max Verstappen. On sait qu'il y a vraiment des foules oranges qui se déplacent en Belgique, déjà, puisqu'il a les deux nationalités. Sa maman est belge, son papa est hollandais. Il a été lui aussi pilote de Formule 1, Jos Verstappen. C'est une très bonne nouvelle pour le calendrier, évidemment. Maintenant, comme toujours, si on doit éjecter, entre guillemets, un Grand Prix, on sera désolé si on perd le Grand Prix d'Espagne. Mais bon, tournons-nous. Le retour de la F1 dans les dunes de Zandvoort, je crois que ça va être quelque chose.
Absolument. Des nouvelles du Grand Prix de France également, Christophe.
J-35, soit 5 semaines avant le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet. La tournée nationale du roadshow du Grand Prix de France de Formule 1 avec Renault F1 Team s'est achevée dimanche dernier à Saint-Raphaël. Ça avait démarré à Disneyland. Et plus de 15 villes ont participé à ce roadshow. Ça a rassemblé plus d'un 2000 millions de spectateurs.
Ah oui, quand même.
Tu vas pouvoir sortir tes plus belles chemises, hein, car au circuit Paul Ricard, on annonce Bob Sinclair le 22 juin et Martin Solveig le 23 en soirée. Énorme.
Énorme, effectivement. Bah écoute, on en parlait dans ce contexte du Grand Prix de France moto au Mans. C'est un véritable bonheur, vraiment, de se retrouver sur le circuit Paul Ricard à la fin du mois de juin. On y était l'an dernier pour le retour après 10 ans, hein, 10 ans de disette, c'est le cas de le dire. Ça a été vraiment très dur à vivre et je rappelle quand même que la France, c'est l'un des berceaux des sports mécaniques, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, c'est l'histoire. On court en France sur les routes de France. Et d'ailleurs, le premier Grand Prix qui portait ce nom, je vous rassure, j'étais pas né, j'étais pas là non plus. C'était dans la région du Mans.
C'est... Ah
bah... Non mais ça je le sais. Et ça s'appelait Grand Prix de France et c'était sur un circuit, je crois qu'il faisait 70 km de long, rendez-vous compte. Et ça utilisait des routes ou même des chemins. Enfin c'était quelque chose d'incroyable. En tout cas, retour du Grand Prix de France au Paul Ricard. On y sera, puisque plus que jamais RMC c'est la radio de la Formule 1. Et on y sera avec toi, lui avec Lucas qui est à mes côtés ici et avec qui on va vivre ce Grand Prix moto au Mans. Voilà,
on
ce sera,
y sera
un vrai bonheur.
Et peut-être vous aussi, puisque ce week-end vous pouvez gagner vos places pour le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Votre passe pour les 3 jours, c'est à gagner maintenant sur RMC. Pour remporter vos billets, vous envoyez F1 au 732-16. F1 au 732-16. Bonne chance à tous. Merci Jean-Luc Roy pour
c'est
ce Motor. 13h50. Dans 10 minutes, le départ du Grand Prix de France moto. Merci Christophe Plenet pour Radio Panneau. On se retrouve dans l'Intégral Sport. Tout de suite, c'est Christophe Cessieux qui prend la main. À tout à l'heure.